Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous pourrions le dire ainsi, il existe principalement deux raisons pour lesquelles les chrétiens peuvent être méprisés, subir la haine, la violence. Ces deux raisons, eh bien, il y a la meilleure des raisons et puis il y a la pire des raisons. La meilleure des raisons, elle est bien connue de tous. Nous n'aurons jamais fini de contempler ce mystère en regardant Jésus dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Nous savons qu'à l'école du Christ, nous aurons à souffrir dans le témoignage que nous avons à donner. La raison que j'appelle la pire, elle est moins évidente, et pourtant il est important que nous en ayons conscience, que nous nous y attardions un petit peu, parce que conscient de la meilleure des raisons, nous risquons de tout mélanger. Donc il faudra l'évoquer, cette raison. D'autant plus que dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus en parle. Mais commençons par ce qu'il faut rappeler pour commencer, la raison pour laquelle les chrétiens ont à souffrir, inévitablement, c'est directement ce que le Seigneur nous annonce. Chapitre 10 de saint Matthieu, par exemple. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître, aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître Belzéboul, c'est-à-dire le démon, à combien, à plus forte raison, appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Les disciples ne sont pas au-dessus du maître. Pierre enseignera de même dans sa première épître, « Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, heureux êtes-vous parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Paul, dans ses épîtres, dans le passage que nous avons entendu à l'instant où il s'identifie dans son humiliation au Christ humilié lui-même en disant que ses souffrances ont une valeur apostolique, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle qui se délite. » Saint Augustin le dira de façon très lapidaire, efficace, « La vérité engendre la haine. Voilà pourquoi il faut s'attendre à être haï. » Souffrir pour cette excellente raison, chers amis, doit être un honneur. Il ne faut pas rechercher à souffrir pour cela, il ne faut pas provoquer cette haine, mais quand celle-ci survient, il faut l'accueillir comme une grâce à l'école des martyrs. Mais il existe aussi, si vous me le permettez, si vous permettez qu'on s'y attarde un peu plus, la pire des raisons pour laquelle nous souffrons. C'est Jésus qui en parle dans l'évangile d'aujourd'hui. Bien sûr, comme moi, en entendant cet évangile, vous retenez la finale. Comme après un bon repas, on retient surtout le goût du dessert. À la fin, de même, que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. On est encouragé et nous avons raison de l'être. Mais le début, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre sa saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Qui piétine le sel? Est-ce Dieu qui dit « ça ne sert plus à rien » Non, non, non. L'image de Jésus est précise. Il est piétiné par les gens. Les gens. Le monde. C'est le monde qui piétine le sel quand le sel n'est plus du sel, quand le sel n'a plus de goût de sel. Quand les cathos ne servent plus à rien, on les piétine. Quand est-ce que nous ne servons plus à rien? Quand nous cessons de mettre notre grain de sel, là où il faut mettre son grain de sel, quand nous cessons carrément d'ennuyer le monde, et je reste poli, car notre vocation consiste aussi à ennuyer le monde. J'espère que vous en êtes convaincu. Quand nous nous soustrayons à notre vocation d'être le sel de la terre, d'être des exhausteurs de goût, des révélateurs, tiens, des influenceurs, si vous voulez. C'est ça, le sel. quand nous abandonnons le projet de devenir ce que nous sommes, de demeurer fidèles à notre vocation. Or, le monde, c'est ça qui est très mystérieux et que je vous propose de repérer. Le monde, même inconsciemment, même sans oser se l'avouer et encore moins l'avouer aux autres, désire être embêté par les chrétiens. Que les chrétiens les distraient de leurs distractions. Et ils en ont parfois la nostalgie. Ils regrettent cela. Vous voyez, ça fait donc deux bonnes raisons de persécuter les chrétiens. Quand ils servent la vérité, on les persécute. Quand ils la desservent, on les persécute aussi. Ce qui explique que sans doute c'est la religion la plus persécutée au monde. Dans les deux cas, nous méritons d'être persécutés. Le monde n'a pas envie d'entendre la vérité, mais il n'a pas envie non plus de la voir disparaître. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Il ne sait pas ce qu'il veut et ne sait que croire, sauf qu'il ne veut pas non plus de chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui glissent vers l'apostasie silencieuse. Voyez, pour prendre un exemple un peu caricatural, quand les prêtres étaient un petit peu plus visibles et audibles, c'était bien parce que quand ils passaient, on pouvait faire croire. Voilà. On pouvait se moquer d'eux, on pouvait rentrer, on pouvait un peu les provoquer. Aujourd'hui, on s'en fiche complètement. Cette dissolution de l'identité chrétienne fait que le christianisme, la révélation chrétienne, n'a plus cet effet de douce provocation qui éveille les consciences. Quand on découvre la présence, aujourd'hui, de pervers et de criminels dans les rangs du clergé catholique, vous sentez bien qu'à bon droit, l'indignation dépasse très largement la seule troupe des fidèles. Elle gagne le monde entier. On sent que l'Église a un traitement de faveur. Certains s'en plaignent, ils ont tort, je vais vous dire pourquoi. Et quand on découvre les mêmes horreurs à une échelle aussi importante dans les milieux scolaires, sportifs, médiatiques, c'est à peine un sujet. Alors on se dit, pourquoi quand c'est nous, ça prend ses proportions? Personnellement, je pense qu'il ne faut pas se plaindre de ce traitement de faveur, car il traduit justement l'attente inavouée du monde à l'égard de l'Église. Même chez les plus hystériques des anticatholiques, ils attendent la sainteté et la vérité. Chers ennemis, voudrais-je dire, si vous ne nous estimiez pas aussi imposteurs que vous le dites, vous ne passeriez pas votre temps à dénoncer l'imposture. Votre ardeur trahit une déception inavouée. Vous auriez aimé, et vous avez raison de l'avoir désiré, que le sel ait vraiment du goût. Déçu, vous vous êtes mis à mépriser. Et, chers amis, le mépris des déçus est quelque chose que nous ne devons pas précisément mépriser nous-mêmes. Le mépris des déçus, il faut l'entendre. Jésus le souligne ici dans cette fureur qui consiste à piétiner le sel qui n'a plus de faveur. Comment l'expliquer ? La fureur des gens qui piétinent. Jésus souligne ici que, et nous prie de ne pas décevoir ceux à qui nous sommes envoyés par vocation. Bientôt, et nous serons heureux d'entendre de sa bouche ces paroles jaillir au soir de la scène, ces paroles recueillies par saint Jean, nous l'entendrons prier le Père pour ceux qui l'envoient, que ceux-ci ne déçoivent jamais. Dans cette belle prière sacerdotale du dernier soir en famille, vous vous souvenez ? Père, sanctifie-les, mes disciples, dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux-mêmes sanctifiés dans la vérité. Et je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. C'est beau d'entendre ces paroles, elles nous rassurent. Car nous sommes compris, prévus, inscrits dans la prière même de Jésus, qui est une prière éternelle, permanente. Au moment où je vous parle, Jésus présente cette prière au Père. Et voyez, il nous révèle son ambition pour nous, cette vocation qui est la nôtre. Il espère que le salut puisse se diffuser à travers nos pauvres bouches, nos pauvres mains. Mais il prie aussi pour que cette œuvre de la rédemption s'accomplisse vraiment, pour que nous ne décevions pas les attentes des hommes autant que le projet du Père. Il prie pour les témoins et ceux que ceux-ci rencontreront. Et grâce à cette prière, il n'y a pas de péremption sur le paquet de sel. Il y aura toujours, grâce à la prière de Jésus, une fidélité assurée. Pour peu que nous nous laissions modeler, rejoindre, transformer par cette prière de Jésus, la descendre jusque dans notre cœur, notamment au contact de la Sainte Eucharistie, pour que nous soyons vraiment le sel de la terre, la lumière du monde, demandons au Seigneur cette grâce de répondre à cette vocation qu'il a déposée en nous, d'être les exhausteurs, les révélateurs, les influenceurs, si vous voulez, que le monde attend. Parfois qu'il attend avec une déconcertante rage, mais qu'il attend vraiment. Amen.